Bonjour à tous. Il n'a échappé à personne que ces jours-ci sont consacrés à certaines festivités. Tout le monde est au courant ? Oui, d'accord. Souvent, on se pose la question, est-ce que lorsqu'on doit apporter la parole du Seigneur, il faut se caler sur l'ambiance et le calendrier ? Et je me disais qu'en regardant les prédications qui sont sur le site et que je vous invite, si vous voulez réécouter des paroles, à aller sur le site de l'église de Kevin, et que finalement, nous, on n'est pas très, très respectueux du calendrier et de l'air ambiant. Donc, je ne vais pas échapper à la règle ce matin. Je ne vais pas prêcher sur la nouvelle année. Je ne vais pas continuer les textes de Noël. Je vais peut-être me recentrer sur autre chose. En fait, je me disais que, en préparant cette méditation et cet échange, échange, c'est une manière de parler. Il n'y a que moi qui parle. Donc, cette parole, qu'il était important finalement en fin d'année ou en début d'année de se recentrer sur l'essentiel. Et que l'essentiel, c'est pas forcément un nouveau temps qui commence. Même si ce soir nous nous retrouverons pour certains ici dans ce lieu pour passer d'une année à l'autre, mais vous savez, dans le ciel, à l'heure actuelle, les anges, ils se disent, il n'y a rien de particulier parce que le temps n'est qu'une création de Dieu. Il n'y a que nous qui sommes soumis au temps et finalement, toutes les choses éternelles, et dans le mot éternel, il y a tout ce que cela veut dire, l'éternité se moque des jours, des mois, des années, des décennies et des siècles. Ce n'est qu'une création dont les hommes sont tributaires, certes, mais finalement, ce sont des choses qui sont, je dirais, une création de Dieu. Alors, je me dis, quel est l'essentiel ? Alors, je vais vous inviter à lire un texte qui est centré, me semble-t-il, sur l'essentiel. Vous serez peut-être surpris en voyant le choix que j'en ai fait. C'est dans l'évangile de Luc, au chapitre 17 et au verset 11. Au cours de son voyage vers Jérusalem, Jésus passait entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre et se tenaient à distance. Ils élevèrent la voix et dirent « Jésus, maître !» « Aie pitié de nous !» En les voyant, il leur dit « Allez vous montrer au sacrificateur !» Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent purifiés. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas et glorifia Dieu à haute voix. Il tomba face contre terre, aux pieds de Jésus, et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus prit la parole et dit, « Les 10 n'ont-ils pas été purifiés ? Mais les neuf autres, où sont-ils ? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu ? Puis il lui dit, « Lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. » Alors me direz-vous, est-ce le bon texte pour terminer une année, dernier jour de l'année ? Une histoire de lépreux, de malades, d'un groupe d'hommes qui se trouvent atteints par une des maladies les plus terribles qui soient. Ce récit de l'évangile de Luc ne se trouve que dans l'évangile de Luc et pas dans les autres évangiles. Alors qu'il ne soit pas dans Jean, ce n'est pas étonnant, puisque Jean ne fait pas partie de ce qu'on appelle les évangiles synoptiques, c'est-à-dire Matthieu, Marc et Luc, ce sont trois évangiles qui se lisent, vous mettez les trois, essayez un jour, vous verrez, il y a des livres spécialisés, mais vous avez trois colonnes, les trois évangiles, vous lisez, et c'est le même récit qui se déroule, sauf dans Luc, avec quelques particularités, il y a des textes qu'on ne retrouve que chez lui. Ce qui est très étrange. Moi, je me pose la question toujours, pourquoi Luc peut-il ou veut-il introduire des textes qui ne sont pas dans les autres évangiles, alors que c'est un des évangiles synoptiques les plus tardifs. Matthieu et Marc ont été écrits auparavant, on en a quelques exemples avec certains vestiges des manuscrits de Qumran qui donnent des passages de l'évangile de Marc, c'est le plus ancien, c'est comme ça qu'on le présente, Matthieu après, et Luc, qui n'a pas connu Jésus, mentionne malgré tout quelques passages qui sont particuliers à son évangile. Et celui-ci en fait partie. Et finalement, quand j'ai relu ce passage-là, je me suis dit, parce qu'il va aussi à l'essentiel. Il a fait un travail de journaliste, Luc, qui dit qu'il est allé interroger tous les témoins, y compris Marie, la mère de Jésus. Donc il est allé aux sources. C'est pas parce que c'est le troisième évangile synoptique que c'est pas un évangile, je dirais, précis. Il est dit que, travaillant avec l'apôtre Paul, n'ayant jamais vu Jésus, néanmoins, pour raconter l'histoire de l'évangile, de la bonne nouvelle, il est allé interroger tous les témoins, les apôtres, la famille. Ouais. Et il y a ce texte-là. Alors quand on le lit, honnêtement, on se dit une guérison de plus. Qu'est-ce qui est mis en avant ? Le fait qu'il y a 10 lépreux et que l'un d'entre eux est revenu voir Jésus, alors que guéri comme les autres ont continué leur route, sont allés faire ce que Jésus leur avait dit, aller voir les sacrificateurs, les prêtres. Lui, il est revenu voir Jésus. Donc on se dit, c'est un récit de guérison. Oui et non. Oui et non, et j'aimerais faire une deuxième lecture qui se trouve dans le livre du Lévitique au chapitre 14, verset 2. Alors, ce livre du Lévitique, c'est le livre, par excellence, des lois et des règles. Hein, c'est-à-dire, comment on doit vivre sa foi quand on est un bon juif. Hein, tu feras comme ça, comme ça, comme ça. Et c'est ce qu'on appelle un des livres de la Torah, de la loi, des cinq premiers livres, Genèse, Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome. Et puis ces cinq livres de la loi ont été déclinés, je dirais, par des lois, c'est-à-dire qu'on a examiné chaque mot, chaque phrase, on en a refait des lois, et puis ces lois-là, on les a déclinées en d'autres lois. Merci Seigneur de ce que je ne suis pas juif. C'est le contraire de la prière que tous les juifs font le matin. Hein. Merci Seigneur que je ne sois pas, que je sois juif. Alors, ils disent pas tout à fait ça. Ils disent « Merci Seigneur de ce que tu as fait de moi. Tu n'as pas fait de moi une femme, mais que tu as fait de moi un homme juif. » C'est la prière des hommes juifs tous les matins. Moi, j'ose pas dire ça dans mon lit quand je fais ma prière, le matin au réveil, à côté de ma femme qui est endormie. Mais les juifs ont cette relation-là à la parole de Dieu. Et le Lévitique dit ceci au sujet de ces fameux lépreux. Les 10 lépreux, et Jésus dit à ces lépreux qui s'approchent, « Aie pitié de nous, allez voir le sacrificateur, ou en tout cas les prêtres. » Et pourquoi est-ce qu'il dit ça ? Bien, tout simplement parce que dans le Lévitique, il y a la procédure à appliquer quand on est lépreux et que l'on veut être reconnu comme guéri. Alors, au chapitre 14, verset 2, « L'Éternel parla à Moïse et dit, voici ce qu'elle sera la loi sur le lépreux le jour de sa purification. C'est-à-dire le jour où, je dirais, il se pourrait qu'il soit guéri. Alors ce jour-là, on l'amènera devant le sacrificateur. Le sacrificateur sortira du camp et il examinera le lépreux. Si le lépreux est guéri de la plaie de la lèpre, le sacrificateur ordonnera que l'on prenne pour celui qui doit être purifié deux oiseaux vivants et purs, du bois de cèdre, du cramoisi et de l'hysope. Le sacrificateur ordonnera que les âmes sensibles bouchent leurs oreilles. Le sacrificateur ordonnera qu'on égorge l'un des oiseaux sur un vase de terre sur de l'eau vive. Il prendra l'oiseau vivant, le bois de cèdre, le cramoisi et l'hysope. Il les trempera avec l'oiseau vivant dans le sang de l'oiseau égorgé sur l'eau vive. Excusez-moi des détails. Il en fera 7 fois l'aspersion sur celui qui doit être purifié de la lèpre. Puis il le déclarera pur et il lâchera dans les champs l'oiseau vivant. Celui qui se purifie lavera ses vêtements, rasera tout son poil, se baignera dans l'eau et il sera pur. Ensuite, il pourra entrer dans le camp, mais il restera 7 jours hors de sa tente. Le septième jour, il rasera à nouveau tout son poil, sa tête, sa barbe, ses sourcils. Il rasera tout son poil, il lavera ses vêtements, il baignera son corps dans l'eau et il sera pur. Waouh ! Heureusement que c'est moins compliqué quand on va voir le docteur. Voilà la procédure dans laquelle, j'ai envie de dire, les 10 lépreux vont devoir rentrer. Alors, ce récit de l'Évangile se déroule pas, et c'est important de le lire, se déroule pas à n'importe quel moment dans l'Évangile de Luc. Il se déroule dans le parcours du Christ sur cette terre, au moment où son ministère au milieu des hommes va s'achever. C'est-à-dire qu'il se rend à Jérusalem pour accomplir le don qu'il va faire aux hommes, à toi et à moi. Il est sur cette route-là pour aller vers Golgotha. Et alors qu'il marche vers une mort qu'il a choisie, qu'il a voulu, il passe, est-il écrit, entre la Samarie et la Galilée. Deux territoires très étranges. Hein. On en a parlé à plusieurs reprises, notamment sur une prédication où Jésus est allé voir une Samaritaine, pour raconter. Hein. Voilà. Donc, il est dans ce territoire d'entre-deux. La Samarie, ce sont à la fois des Juifs, mais des Juifs qui se sont détachés de la religion juive, qui ont construit leur propre culte, etc. Et puis, la Galilée, c'est le territoire de Bethléem, etc. Enfin, un territoire où les promesses de Dieu se sont accomplies par rapport au Messie. Et entre ces deux mondes différents, le Christ passe pour aller à Jérusalem et de Jérusalem à la croix. Et puis, il y a cette rencontre. Il entre dans un village, 10 lépreux viennent à sa rencontre. Et quand on regarde ce récit, il y a 10 hommes qui sont semblables. Ils sont tous malades de la lèpre. Ils sont des hommes qui sont marginaux, exclus du fait de la maladie. Et il y a une quarantaine d'années, j'ai lu un livre de témoignage de deux médecins, Philippe Brand et son épouse, « Que tes œuvres sont admirables », je vous le conseille. C'est un livre extraordinaire de deux médecins, hommes et femmes, qui sont partis sur le champ missionnaire en Inde et qui sont partis soigner les lépreux. Et j'ai beaucoup aimé ce livre parce qu'il s'appuie à la fois sur la découverte de la maladie, l'aide qu'ils apportent aux malades, mais aussi, comme médecin, il parle du corps, de la création que Dieu a fait par notre corps et comment chaque détail de notre être reflète une pensée de Dieu. Par exemple, ils prennent l'exemple du squelette, ils disent « qu'est-ce qu'on a comme... comme chance d'avoir un squelette interne. Si on était des crevettes ou des homards, il faudrait, à chaque fois qu'on grandit, se débarrasser de notre squelette et attendre tranquillement qu'il revienne à l'extérieur de nous-mêmes pour nous protéger. Nous, on a un squelette à l'intérieur. Et ils utilisent ces images du corps en disant, ben voyons, la foi, c'est la même chose. C'est un squelette spirituel intérieur qui grandit avec nous si nous le nourrissons. Hein? Est-ce que nous avons ce squelette intérieur? Alors, Philippe Brandt développe chaque détail, la peau, les os, les cellules, d'une manière spirituelle, notamment sur l'enseignement de l'apôtre Paul, qui parle du corps de Christ, hein, qui parle aussi donc de l'Église, et tout cet enseignement est extraordinaire. Et il travaillait sur le champ missionnaire en Inde auprès des lépreux. C'est là que j'ai découvert que, en lisant ce livre, moi, je viens d'une ville qui s'appelle Le Havre, et quand j'étais jeune, j'avais étonné d'apprendre qu'au Havre, il y avait une ville qui était consacrée au Moyen-Âge à l'accueil et au rassemblement des lépreux pour les séparer de la ville importante qui était à côté. Et cette ville, ce petit village, s'appelait Rouelle. C'est là où habitait mon frère. Et j'ai découvert que la Rouelle, Rouelle portait le nom d'une petite roue que les lépreux portaient sur leurs vêtements et qui signalait qu'ils étaient lépreux. Quand on avait une Rouelle, ça voulait dire qu'on disait aux autres, vous approchez pas, je suis lépreux. Et en plus, on avait une crécelle qu'on tournait. Et donc, dans ce village, au Havre, il y avait un endroit pour, entre guillemets, cantonner ou parquer les lépreux. Ouais. Et ça m'a toujours impressionné, ça. Elle dit une ville entière, une petite ville entière. Alors, elle a changé maintenant. C'est des immeubles, c'est une cité comme les autres, mais portait le nom d'un endroit qui était consacré à l'accueil des lépreux. Eh bien, là, on en a un exemple des lépreux qui étaient exclus, qui étaient au loin. D'ailleurs, dans le récit, il est dit qu'ils se sont tenus à distance. Ils ont interpellé Jésus. Mais ils se sont tenus à distance, parce qu'il n'y avait pas dans la société juive le droit de se toucher, notamment avec la lèpre, qui était une maladie, mais aussi une représentation du péché. La lèpre, dans l'Ancien Testament, c'est une représentation. Ça veut dire que quelque part, dans l'Ancien Testament, tous les hommes sont des lépreux en puissance, parce que porteurs du péché et de la mort. Comment être libéré de ce péché, de cette marque qui nous conduit vers la mort? Eh bien, dans ce récit, en fait, si je l'ai choisi ce matin, c'est parce que ce récit est moins un récit de guérison qu'une parabole dont on trouve les clés dans le texte du Lévitique que nous avons lu. C'est-à-dire qu'en décortiquant ce texte et en allant vers le texte du Lévitique, on s'aperçoit qu'il nous parle à nous. Alors, bien sûr, nous ne sommes pas, entre guillemets, lépreux. Mais nous sommes pécheurs. Et tout ce qui est lié au processus de guérison de la lèpre nous parle de la guérison du péché. C'est pour ça que ce texte-là de l'évangile de Luc, s'il n'est pas dans les autres évangiles, il me semble que l'évangéliste Luc a voulu aborder un texte qui parle de la manière dont Christ accomplit son œuvre de salut. Le texte termine par cette phrase au verset 19. « Lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. » C'est pas « Lève-toi, va, tu es guéri. » Non, « Ta foi t'a sauvé. » Et lorsqu'il est parlé de la foi qui sauve, il s'agit du sozo, pas simplement du corps, mais de l'âme et de l'être tout entier. Alors, la lèpre, dit Philip Brown, moi je ne connaissais pas ça, c'est en lisant son livre il y a une quarantaine d'années que j'ai découvert ça. Je me suis toujours dit c'est une maladie absolument terrible, puisque les malades, les stigmates portés par les malades, c'est qu'ils perdent des morceaux de leur corps, etc. Et je me suis dit, mais quelle maladie peut provoquer cela? Et en fait, la lèpre, c'est une maladie des nerfs. Je me suis dit, ah bon? Moi, je croyais que c'était autre chose, pour avoir de tels stigmates. Et en fait, la lèpre, c'est une maladie qui touche les nerfs. C'est-à-dire que quand une partie du corps est touchée, eh bien, le malade ne ressent rien. Et donc, l'infection se développe et, en fait, en quelque sorte, le malade a la chance, entre guillemets, de ne rien ressentir jusqu'à ce qu'il perde son oreille, son nez, ses doigts, ses membres, etc. C'est une maladie qui est comparée au péché. Comment le péché peut-il, dans nos vies, toucher des parties de notre être? Alors, pas au niveau physique, mais intérieur. Comment cette maladie, ce péché, peut-il, parce qu'on est insensible à l'effet du péché, toucher des domaines de notre vie qui sont altérés, blessés, meurtris, et qui peuvent tomber et disparaître? Est-ce que ce n'est pas cela que nous avons vécu quand nous avons rencontré Christ et que nous avons vécu cette guérison, ce salut? C'est la possibilité que ceux qui avaient été touchés par le péché, abîmés, meurtris, puissent revivre. Revivre. Va, ta foi t'a sauvé. Alléluia. Eh bien, ces 10 hommes se sont placés devant Jésus. Et en respectant la loi, on dit « Seigneur, Seigneur, Maître, aie pitié de nous. » Alors, en disant ces mots-là, ils font une prière extrêmement courte. Parfois, je me dis, qu'est-ce qu'on est long dans nos prières. En tout cas, moi, parfois, je dis, hein, tu devrais être plus court, plus tranchant, plus direct, plus efficace dans ta relation avec Dieu et éviter de broder, de mettre des fleurs. Seigneur, tu... Et puis on passe 10 minutes avant de venir à ce qu'on a envie ou besoin de dire ou ce que Dieu a besoin d'entendre de nous. On brode, on brode, on brode. Là, ils sont dans l'essentiel. Alors pourquoi ? Bah parce que leur besoin est évident et parce que leur besoin de Dieu est quelque chose d'urgent, de maintenant. Il dit ceci, « Maître, Jésus, Maître, aie pitié de nous. » Alors, quand ils s'adressent à Jésus, ils ne le font pas n'importe quelle manière. Ils disent « Maître ». Alors, ce n'est pas un mot qu'on retrouve très souvent, c'est un des mots favoris de Luc, qu'on ne retrouve pas, ce n'est pas « Rabbi ». C'est en fait épistaten, donc épistates, maître, c'est-à-dire un mot qui signifie toi qui es capable de faire tenir en place ou de garder en place ou de maintenir, de rendre ferme ou d'établir, c'est le sens de ce mot grec. Maître, c'est vraiment un mot qu'on retrouve plusieurs fois dans l'évangile de Luc. Celui qui est capable de rétablir et de remettre en place ce qui est déréglé. Moi, j'aime bien que les 10 lépreux aient choisi ce mot-là plutôt que « Rabbi, toi qui sais tout » ou « Seigneur, curios, toi qui es au-dessus de tout ». Non, ils disent « Maître, epistates, toi qui es capable, qui fixe les règles, toi qui es capable de faire revenir les choses dans l'ordre initial, dans l'ordre où ça doit être. Et regarde-nous, regarde nos corps, il y a du désordre là-dedans. Eh bien, toi, tu es le maître qui est capable de remettre toute chose à sa place. Waouh ! Est-ce que ce n'est pas une prière que nous pouvons faire ? Seigneur, tu es celui qui, dans ma vie, peut remettre toute chose à sa place. Tu es celui qui peut, là, maintenant, remettre toute chose dans l'ordre normal de ce que tu veux me voir vivre. Je me suis égaré à droite, à gauche. J'ai fait des choix de vie. Oui, mais toi, tu es ce maître-là, l'épistatesse, celui qui connaît toutes les règles, toutes les choses, toutes les normes et qui peut à nouveau rétablir. Est-ce que tu peux faire, si tu en as le besoin, là maintenant, cette prière dans ton cœur, dire « Seigneur, j'ai besoin que toi aussi, tu touches ce qui est déréglé en moi, ce que le péché a transformé qui n'est pas ta volonté. J'ai besoin. » Vous savez, ce qui nous prive de la gloire de Dieu, bien sûr, c'est notre incrédulité, mais c'est parfois le fait de ne pas oser demander à celui qui est maître de toutes choses. Sommes-nous dans la même attitude de cœur et de foi que ces 10 lépreux face au Christ ? Car il s'agit bien de cela, l'accueillir comme celui qui peut et veut accomplir cette œuvre en nous, établir notre être intérieur dans ses normes, dans ce qui est prévu par lui. Nous mettre toutes choses en place, affermir ce qui est flottant, ce qui est désorganisé. Et si nous laissons le Saint-Esprit, si nous osons laisser le Saint-Esprit nous interpeller, alors il nous montrera là où il y a besoin de la guérison et de l'œuvre de Dieu. Les lépreux ont cette foi. Or, j'ai envie de dire, eux, ils ont le sentiment qu'ils n'ont plus rien à perdre. Et ma question, c'est est-ce que nous devons attendre de n'avoir plus rien à perdre pour mettre notre foi en œuvre ? Quelques versets plus haut, juste dans le même chapitre, il y a les disciples qui disent « Voilà, donne-nous la foi !» Donne-nous la foi. Mais si vous aviez la foi, c'est juste quelques versets au-dessus. Et il y a un lien entre cette question des disciples et cette histoire des dix lépreux. Eux, ils ont eu la foi d'interpeller celui qui est le maître de toutes choses, qui connaît ce qui est bon pour moi, quelles sont les normes et les règles dans lesquelles je peux poser ma vie. Il est l'ordonnateur de toutes choses dans mon être, dans mon existence. Et les disciples disent, donne-nous la foi. Mais eux, ils ont cette foi-là qu'il est capable de réparer, d'établir, de remettre en place. Ah ! Il y a parfois des moments qu'on vit avec Dieu qui sont un peu, je dirais, prévus par lui, ou qui sont très prévus par lui. Et avant que je prépare ce message-là, il y a une semaine et demie, j'étais en Suisse avec Francine et on est allé voir notre fils et nos petits-enfants, nos quatre petits-enfants. Et un matin, les enfants étaient à l'école, c'était le vendredi matin. Je suis descendu un peu à pied pour aller au village, parce qu'ils habitent sur les hauteurs au-dessus de Genève. Et puis, je suis descendu à pied. Et je suis arrivé dans le village à un bâtiment étrange. Je ne sais pas si c'était une église ou un local associatif, un vieux machin qui date des années 1700-1800. Et contre le mur de ce bâtiment, il y avait une boîte à livres. J'aime beaucoup, vous connaissez le principe des boîtes à livres. Il y en a à Kevin. Si vous avez des bouquins que vous voulez vous débarrasser, posez-les dans les boîtes à livres. Moi, je fais ça très souvent. Et là, je suis tombé sur une boîte à livres. Et j'ai toujours la curiosité, qu'est-ce qu'il y a ? En général, ce n'est pas forcément des livres que j'irai chercher. Et puis là, j'ai farfouillé et je suis tombé sur un petit livre d'un auteur que j'aime beaucoup, qui s'appelle Jean d'Ormesson. Il est décédé à plus de 90 ans, il y a un an et demi, je crois. Et il y avait ce livre « Comme un chant d'espérance ». Je me suis dit, tiens, je connaissais ses écrits, mais je n'avais pas forcément l'élan pour aller en acheter ou en lire. Et j'ai vu ce livre-là, et j'ai lu, et à la fin, on nous dit que Jean d'Ormesson tente avec gaieté de percer le mystère du rien, c'est-à-dire du tout. Et en fait, il fait cet exercice-là. Est-ce que si on parle de ce qui n'était pas, avant qu'il y ait des choses, avant que l'univers, donc dans ce rien, est-ce qu'on n'est pas obligé quelque part de rencontrer Dieu ? Et j'étais étonné. Et j'ai lu, et il commence en évoquant à la fois la science et cette création de l'univers. Je vais vous en lire quelques lignes parce que c'est assez intéressant. Ce qui m'a le plus intéressé dans cette formidable aventure du savoir qui va de la découverte fondamentale par Hubble de l'éloignement continu et accéléré des galaxies entre elles, confirmé par la découverte accidentelle du rayonnement fossile par Penzias. Prenez des notes, hein. Parce que je ne vais pas me répéter non plus. Et Wilson, à la découverte par l'équipe du CERN à Genève du boson de Higgs, dit improprement et par exagération médiatique, le boson de Dieu, c'est l'impossibilité de remonter dans le passé, au-delà ou en deçà, comme vous voudrez, d'une fraction infinitésimale de seconde après l'explosion primitive d'où sort le grain de poussière minuscule que deviendra l'univers. C'est-à-dire que, il va le dire, on dirait une blague. À un millionième ou à un milliardième ou à un centième de milliardième de seconde, je ne sais pas, après le début de l'univers, ce Big Bang en quelque sorte, il faut imaginer 0 seconde virgule 0000000 40 en fait, je ne vais pas tous vous les faire, avant que surgisse enfin un 1, c'est-à-dire quelque chose qui existe. S'élève soudain, avant ce 0,000, avant cela, il y a un mur infranchissable. Ce n'est pas un mur religieux, théologique, poétique, philosophique, idéologique, non, c'est un mur scientifique. On appelle ça le mur de Planck. Au-delà du mur de Planck, nos lois ne sont plus valables. Il n'y a plus aucune loi physique, mathématique qui existe. Les lois universelles qui s'appliquent d'un bout à l'autre de notre immense univers ne fonctionnent plus. La toute-puissante physique mathématique qui nous a révélé tant de secrets, hoquette, bafouille, perd pied et s'arrête pile. Tout se passe comme si un malin génie jaillissait tout à coup du seuil de notre univers, sur le point de voir le jour, en brandissant une pancarte. Au-delà de cette limite, votre science n'a plus cours. Et moi, je rajoute, j'aime bien rajouter mes propres mots aux grands auteurs. Au-delà de cette limite, votre science n'a plus cours. Votre foi commence. Et en fait, à la fin de ce livre, je ne l'ai pas entièrement lu, mais il termine à la page 115. « Le monde n'existerait pas sans Dieu et il ne serait rien sans les hommes. Les hommes, nous le savons déjà, ne sont pas le but, ni le sommet, ni la fin dernière de la création, mais ils en sont une étape obligée et les architectes associés. » Il y a une matière, des choses, des formes, des couleurs, des sons, des objets, en un mot, parce qu'il y a un sujet pour les voir ou les entendre, pour les sentir et pour les penser. Et en fait, il parle de, avant ce 0,0000, de la réalité qu'il n'y avait rien et il y avait déjà tout parce qu'il y avait Dieu. Waouh ! Ah, ça m'a fait du bien de lire ces choses. Et je me disais, en fait, lorsqu'il parle de ce champ d'espérance, c'est-à-dire que même regarder l'univers, c'est regarder l'espérance que nous avons en Dieu, notre Créateur. Alors, notre science, oui, elle a une limite, le mur de Planck, mais au-delà de ce mur, c'est là le désir de, dans ce livre de Jean d'Ormesson, c'est de dire, il y a Dieu et la foi. Alors, pour le lépreux, j'ai envie de dire, qu'en est-il de cette foi en Christ? Eh bien, ils reçoivent une parole de Jésus qui leur dit « Allez voir les sacrificateurs ou les prêtres ». C'est la procédure normale. Et ils vont vivre, je dirais, ce qui se trouve derrière le mur de Planck, ce que la foi peut accomplir. En dehors de la raison, des mathématiques, des choses. L'Éternel parle à Moïse et dit « Voilà quelle sera la loi sur le lépreux pour le jour de sa purification. On l'amènera devant le sacrificateur et le sacrificateur sortira du camp. » Ça, c'est le texte légal. C'est ce que Jésus dit au lépreux de faire pour être dans les clous. Alors, le lépreux va aller voir, les lépreux, les dix lépreux vont aller voir le sacrificateur. Il y a une dimension à la fois messianique et christologique dans ce texte du Lévitique. En fait, on a longtemps cru que la maladie de la lèpre était incurable, mais on est confronté aussi à cette possibilité dans le Lévitique que le lépreux soit guéri. De la même manière qu'on disait le péché est quelque chose qui est impossible à combattre. Et Dieu, dès la Genèse, dit, voici un jour, la descendance de la femme écrasera la tête du serpent. Écrasera la tête du serpent. Ça veut dire que le descendant de la femme, c'est le Messie, écrasera la tête du serpent. Même si toi, tu lui blesseras le talon, dit Dieu au serpent. Oui, il le blessera au point de le faire entrer dans le tombeau pendant 3 jours. Mais au bout de 3 jours, il est ressuscité. Alléluia. Alors, le lépreux est amené dans la présence du sacrificateur. Et vous savez, ce qui est intéressant, c'est que le sacrificateur, au verset 3, il dit « sortira du camp ». Sortira du camp. C'est-à-dire qu'il sort à la fois de la partie du tabernacle, il sort aussi du camp qui est la partie où vivent les Juifs qui appartiennent à Dieu. Le sacrificateur, il va en dehors de tout cela. Il va dans le monde, là où normalement il ne devrait pas aller. Et c'est messianique dans le sens où ça parle de celui qui est sorti de l'espace de la gloire, de la sainteté du ciel, pour venir, qui est sorti dans le camp des hommes, pour aller accomplir et constater la purification de l'homme. Christ est venu vers nous comme le sacrificateur devra sortir du camp pour constater la guérison du lépreux. Dans, je ne sais pas si vous avez rappelé ce récit, où il y a Myriam, la sœur de Moïse, et son frère Aaron, qui, à un moment donné, dans le livre des Nombres, au chapitre 12, disent « Ouais, mais enfin, est-ce que ce serait seulement à Moïse que Dieu peut parler ? Est-ce que finalement, nous, on n'est pas capable aussi de parler au nom de Dieu ? Mais enfin, pour qui se prend, là, le petit frère ? Là, c'est le petit de la portée, et donc c'est lui qui a tous les honneurs, etc. » Et il commence à rouspéter, et à un moment donné, Dieu dit « Oh, là, Moïse, Aaron, Myriam, vous venez me voir. » Et là, il leur fait une remontée de bretelles phénoménale qui se termine par le fait que Myriam, en quelques instants, est gagnée par la lèpre. Waouh ! Chapitre 14 du Lévitique, verset 2. Nombre 12, 15. Et puis elle est jugée. Parce qu'elle s'est élevée contre Moïse, elle est atteinte de la lèpre et elle est condamnée. Alors moi, j'aime beaucoup la formule d'André, la Bible, André Chouraki, parce qu'il est dit dans le texte, elle est condamnée à être séquestrée 7 jours en dehors du camp. C'est-à-dire qu'elle est séquestrée dehors. Moi, j'aime beaucoup cette formule. Hein ? Allez, t'es séquestrée dehors. Ouais, mais ça renvoie à quoi ? Ça renvoie au fait que dans les évangiles, vous vous rappelez ce récit, ces paraboles, le maître organise un mariage, il y en a qui n'ont pas les bonnes robes, et il dit « jetez-les dehors, dehors ». Ça veut dire que quelque part, le péché n'est pas, je dirais, autre chose que d'être jeté en dehors de la présence du maître, de la présence de Dieu. Et Myriam, il est dit, elle a dû être toute sœur de Moïse qu'elle était, jetée dehors pendant 7 jours. Séquestrée. Traduction de Chouraki qu'on retrouve dans le terme hébraïque. En fait, être mis dehors. Parce qu'en fait, le péché, c'est ce qui nous maintient en dehors de la présence de Dieu. La perdition éternelle, même si on a essayé de l'épeindre sur les murs de la chapelle de Carnas-Cléden avec des diables qui tournent les âmes, non des tonneaux avec des pointes, c'est pas ça. La perdition, c'est d'être jeté dehors, en dehors de la présence bienfaisante du Père. Toute l'œuvre du salut vise à ramener l'homme et la femme dans la présence de Dieu. Le lépreux sera, verset 14, 3 du chapitre 14 du Lévitique, sera examiné. Et le sacrificateur le verra. Moi, j'aime beaucoup ça. Il va en dehors du camp, le sacrificateur. Il rencontre celui qui dit « Je suis guéri, j'y ai cru, je vis quelque chose d'extraordinaire. » Attends, je vais te regarder. On dirait Avatar. Non, là, il n'y a que les cinéphiles qui peuvent comprendre. Je suis désolé, ce n'est pas une bonne référence. Mais j'aime beaucoup, j'ai mis ça dans une présentation. Au moment donné où le héros revient vers la tribu de celle qu'il aime, elle s'approche et elle pose sa main sur son épaule et dit « Je te vois ». Elle lui dit « Je te vois aussi ». C'est-à-dire, au-delà de ce que je connaissais, là, je te vois. Oh, c'est Avatar. Mais Jésus-Christ vient et nous donne cette possibilité de nous rencontrer par son amour et d'entendre la voix de Christ qui dit « Je te vois ». Pas simplement en apparence, pas par rapport à ce que tu laisses paraître, je te vois dans ce que tu as de plus intime. Je te vois dans tes forces et dans tes faiblesses, dans tes qualités et dans tes failles. Je te vois dans tout ce que tu es. Je te vois. Le sacrificateur sort du camp, va dans ce monde pour rencontrer celui qui est malade, lépreux, comme Christ est venu dans ce monde pour me rencontrer. Et puis, il y a cette histoire de pigeons, de colombes. Il est dit qu'on prendra un oiseau vivant qu'on égorgera sur l'eau vive, car la mort est nécessaire pour que la purification soit constatée. Il n'y a pas de salut, de rémission de la lèpre et du péché sans qu'il y ait effusion de sang. Hébreux 9, 22. C'est-à-dire qu'on peut inventer tout ce que l'on veut. Et je vois, y compris dans les mouvements évangéliques en ce moment, des messages, des courants qui disent « Voilà comment devenir chrétien, voilà comment se sauver, voilà comment... » Non, il n'y a pas d'autre possibilité de rémission des péchés sans que le sang coule et que quelqu'un paye. Alors le lépreux qui s'approche, le sacrificateur tuera un oiseau, son sang coulera dans l'eau vive et pas une eau stagnante. Ça parle aussi de cette eau vivifiante. Mais la mort est nécessaire pour qu'il y ait rémission des péchés. Car aussi, dit Pierre, Christ a souffert une fois pour les péchés, le juste pour les injustes, afin qu'il nous amène à Dieu. Alléluia. Et après, le deuxième oiseau, on le prenait, on mettait du sang de l'oiseau mort, de la même manière que, je dirais, le sang de Christ nous a touchés, de la même manière que dans le culte juif, le sacrificateur, une fois par an, rentrait dans la tente de la rencontre, dans le lieu très saint, prenait de l'hysope, du sang d'un animal, et le versait sur le sommet du coffre du propitiatoire, où il y avait deux anges qui faisaient face, et là, il priait pour le salut du peuple d'Israël. De la même manière, Christ est monté sur la croix afin que son sang coule et que quelque part, il nous purifie de notre péché. Alléluia. L'oiseau mort est identifié à l'oiseau vivant en un seul type. Le type de celui qui est mort et qui est de nouveau vivant pour l'éternité. C'est à la fois une image de Christ. Il dit, à la fin de cette procédure, l'oiseau vivant est relâché et s'envole. De la même manière qu'aujourd'hui, Christ est assis à la droite de Dieu. Il s'est envolé, il n'est plus au milieu de nous. Mais il a versé son sang et il est vivant. Et il atteste par sa résurrection que nous pouvons, nous aussi, devenir vivants en lui-même. Ah. J'ai envie de dire que, de la même manière que le second oiseau était relâché et s'élevait, parce que Christ s'est élevé, mais le croyant qui est purifié est appelé à s'élever, à s'envoler, à prendre son envol. En face de chez moi, j'ai un voisin depuis l'année dernière qui fait des expériences. Il n'est pas du tout fermier, mais il fait des expériences, il est médecin, comme sa femme, mais il fait des expériences dans un quartier de Kevin, et il a monté un poulailler, alors il a 4 poules. C'est merveilleux les poules, vous savez. Ça fait des œufs déjà, c'est pratique. Mais c'est des oiseaux. Mais en même temps, c'est des oiseaux, mais on se dit, parfois je retrouve une poule dans la rue, parce qu'elle s'est envolée au-dessus de du petit grillage. Elles arrivent à voler à 1 mètre. C'est fabuleux, non? Non? Ça ne vous fait pas rêver? Parfois j'ai l'impression que les chrétiens sont comme des poules. Ils volent à 1 mètre. Et ils sont contents! Ils sont heureux! Regardez! C'est pas ça le plan de Dieu pour toi et pour moi. C'est que comme cet oiseau qui a été le symbole de la vie, de la guérison, tu prennes ton envol. T'es d'accord avec moi, Daniel? Ouais. J'ai vu un doute, non? Non, d'accord. On est prêt à s'envoler, alors. D'accord. Amen! On peut s'envoler. Je te vise pas particulièrement. J'aime bien les filles canonnes, quand elles étaient jeunes, elles étaient au premier rang, puis après, elles reculaient dans les rangs parce que je les prenais toujours à partie. Donc, au fur et à mesure, elles reculaient. Alors, Émilie n'est même pas restée là. Toi. L'oiseau prend son envol parce qu'il est une image de ce qui était mort et qui est redevenu vivant. L'aspersion du sang. Nous sommes justifiés par son sang, dit Paul aux Romains. L'oiseau vivant est relâché. Et puis, après, il est dit que cette, Cet homme devait ensuite, vous avez lu avec moi, se purifier lui-même, se raser, etc. Et puis ensuite, 7 jours après, il devait recommencer. Ça veut dire que le lépreux doit aussi être participant, acteur du salut et de la guérison qui lui a été donné. Il lavait ses vêtements, il se rasait tout son poil, épilation totale. Ah, ça, c'est pas un rêve, ça, hein, pour nous, les hommes. Hein. Quand les femmes nous en parlent, on se dit, ça doit pas être rigolo. Hein. Donc, mais là, on devait être participant. Se lavait lui-même, rentrait ensuite dans le camp. C'est-à-dire que, quelque part, il y avait cette participation active du croyant. Voilà, je suis rentré dans la guérison qui m'a été accordée par Dieu. Alors, j'ai envie de dire, qu'est-ce qui fait... La différence, eh bien, c'est de pouvoir proclamer l'œuvre et d'être acteur. Il ne suffit pas simplement de dire « tu m'as sauvé ». Mais est-ce que jour après jour, je peux être dans cette œuvre de purification, de transformation dans ma vie ? C'est cela, cela veut dire dans ce processus de guérison du lépreux. Et puis, je terminerai en disant qu'est-ce qui fait la différence entre ces 10 lépreux, 9 qui ne reviennent pas, et puis un qui revient. En fait, Jésus a dit aux 10 lépreux, « Allez donc voir le sacrificateur ou le prêtre qui est chargé de vous examiner, puisque, voilà, il va se passer quelque chose. » Ils ne sont pas guéris, mais en cours de route, ils sont guéris. C'est-à-dire que quelque part, la foi, je ne sais pas, de ces malades, mais en tout cas, ils ont au minimum dit, « Bah voilà, puisqu'on a demandé, on va faire. On va obéir. » Mais on a demandé d'être guéri, on n'a pas demandé d'aller voir le prêtre. Oui, mais c'est une manière de mettre sa foi en action. Est-ce que si Dieu te demande, hein, c'est toujours ça, s'il t'avait demandé quelque chose de compliqué, est-ce que tu l'aurais fait, dit le serviteur à Naaman, qui lui-même était lépreux. On est toujours dans la même problématique. Il dit, bah bien sûr, bah alors fais-le. S'il t'a demandé d'aller te baigner plusieurs fois dans le fleuve, fais-le. Et là, ils font ce que Naaman a fait. Ils obéissent à la parole de Dieu. Est-ce que si Dieu te demande quelque chose dans ta vie aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais ? Bon, je vais réfléchir. Je vais peut-être me poser des questions sur le bien fondé de sa doctrine, sur l'efficacité. Est-ce qu'il a un vrai ministère de guérison d'abord, celui-là ? Hein ? Voilà. Il y a plein de choses où notre raison, notre... Mais fais ce que Dieu te demande. Entre dans la pensée de Dieu. C'est lui qui peut remettre en ordre ce qui dysfonctionne. Et je ne parle pas simplement de la maladie. Ce qui fait la différence entre les 9 et le 10e atteint par la maladie, c'est qu'il y en a un qui fait demi-tour. Qui revient voir Jésus. Les autres vont continuer à essayer d'obéir à ce que la religion impose. Tu iras voir le prêtre, tu feras ceci, puis tu feras cela. Hein. Voilà. Ils rentrent dans l'aspect religieux. Voilà. Ils ne voient pas pourquoi ils en sortiraient. Ce qui fait la différence dans ce groupe, c'est qu'il y en a un, il sort de la démarche religieuse et il va voir Jésus-Christ. Il fait demi-tour. Vous savez comment on appelle ça ? Dans la foi chrétienne, le demi-tour, c'est une conversion. Il se convertit. Il retourne voir Jésus. Est-ce que nous pouvons aussi sortir de nos esprits religieux pour rentrer dans la relation ? Je dis souvent, il s'agit de sortir de la religion pour rentrer dans la relation. Et c'est ce que Dieu veut que nous vivions avec lui. Alors, se voyant guéri, il retourne voir Jésus. Je ne sais pas ce que sera 2024. Année difficile, compliquée, facile, glorieuse. Tout ce que je nous souhaite, c'est que nous soyons capables de nous convertir. De ne pas être dans le faire religieux, dans ce qu'on a appris, dans ce qu'il nous semble juste de faire, mais de cultiver la relation avec lui au jour le jour. Et semblable à cet homme qui est guéri, de pouvoir louer Dieu, le louer tous les jours. Merci Seigneur pour ta grâce dans nos vies, de ce que cette lèpre qui s'attachait à nous, nous en avons été libérés, guéris par le miracle de la croix à Golgotha. Tu es celui qui peut véritablement être ce maître qui remet toutes choses en ordre. Et tu sais ce qui est en désordre dans notre vie, dans notre esprit, dans nos émotions, dans notre manière de concevoir et de vivre les choses. Tu sais ce que le passé a abîmé. Mais là, maintenant, Seigneur, nous voulons te regarder et t'appeler maître. Toi qui peux remettre toutes choses en place dans ma vie. Ma foi est en toi. Accomplis ton œuvre. Je veux revenir à toi si je m'en suis détourné. Je veux porter mes regards sur toi tout à nouveau. Sortir des chemins tout tracés, ce que l'habitude, ma culture, ont posé en moi comme une évidence. Revenir à toi dans une relation nouvelle. Amen.